Bonjour à toutes et à tous, installez-vous, c'est l'heure de votre thérapie pop. Chers amis, bienvenue à bord pour ce nouvel épisode de Thérapie Pop, l'émission qui décrypte pour vous la musique contemporaine des années 50 à demain. Nous sommes comme chaque semaine ravis de vous retrouver pour 26 minutes de culture musicale. Et pour mon plus grand plaisir, mais également pour le vôtre, c'est Gauthier qui nous prendra par la main aujourd'hui. Salut Gauthier.
Salut mon cher Théo.
Et aujourd'hui Gauthier, tu n'avais pas envie de parler d'un album, d'un artiste, ni même d'un groupe, mais plutôt d'une fratrie et surtout d'une tournée. Alors je te félicite pour la prise de risque et je me dis après tout pourquoi pas, mais elle a intérêt à sortir du lot cette tournée, mon vieux, et à pas être celle des Farfadets du Quercy. Alors, sortir du lot, j'en suis pas certain. En revanche, on est loin des Farfadets du Quercy, puisque les 6 membres du groupe dont on va vous parler nous viennent de Gary, dans l'Indiana, en bordure du lac Michigan. Et que sur les 6, il y en a un qui a un petit peu fait son trou dans la musique, puisqu'il s'agit de Michael Jackson.
Oui, même quand ils étaient 6, ça marchait pas mal.
Plutôt, ouais. Vous l'aurez compris, c'est bien la fratrie Jackson dont on va parler aujourd'hui, les Jackson 5. Eh bien non, je vous ai dit qu'il y avait 6 membres dans la tournée. On n'y comprend plus rien. Bon, je suis persuadé que Gauthier va nous clarifier tout ça.
Et il va essayer parce que c'est une galère.
C'est pas évident.
Ouais, c'est très compliqué.
Mais t'as trouvé une métaphore qui m'a beaucoup plu. On aura l'occasion d'en parler durant l'émission. D'ici une vingtaine de minutes, vous saurez tout sur les Jackson 5-6. Mais pour vous rappeler à quel point leur musique était populaire, je vous ramène en 70 avec l'un des tubes des frères Jackson, Hey B.C. Vous êtes bien sur Radio Présence et vous écoutez Thérapie Pop. Aujourd'hui, nous vous proposons de redécouvrir le groupe des frères Jackson à travers leur tournée Victory, dont nous fêtons les 40 ans cette année. Bon, Gauthier, faut que tu nous expliques maintenant pourquoi tu voulais absolument nous parler de cette tournée?
Ça, je m'attendais à la question, Gauthier. Moi, j'en ai rien à foutre de Victory Tour des Jackson 5. Qu'est-ce que c'est, cette idée? Eh bien, écoute, mon cher Théo, j'ai pensé à un argumentaire massu.
Vas-y.
Si je te disais que la Victory Tour a lancé la plus grande carrière de la plus grande star de la pop mondiale, est-ce que ça te suffit comme raison, puisque c'est après Victory Tour que Michael Jackson deviendra officiellement, entre guillemets, Michael?
Ah ouais?
Ouais.
Tu vas me développer tout ça, alors.
Est-ce que c'est assez pour toi?
Oui, c'est un bon début en tout cas.
Bon, et ben voilà, tu vois.
Alors, ce ne sont pas les Jackson 6, mais les Jackson tout court dont on va parler. On va faire un petit retour aux origines comme tu nous l'as gentiment proposé.
Alors, avant d'être les Jacksons, effectivement, les Jackson 5 est un groupe américain composé de la famille Jackson. Il y a beaucoup de Jackson dans cette explication de texte. Je ne sais pas qui est Jack, mais ses sons ont été très efficients. Le groupe a été fondé, ça tu l'as dit mon cher Théo, en 64 à Gary, dans l'Indiana, qui sort des petits trucs comme ça, l'Indiana, Larry Bird, les Jackson 5, voilà, bon, pourquoi pas. Et qui se composait à l'origine donc des frères Jackie, Tito, Jermaine, Marlon et Michael. Voilà les 5 Jackson 5. Ils ont été gérés par leur cher père d'ailleurs, Joe Jackson.
Et j'imagine que Janet, la petite sœur, était trop jeune pour intégrer le groupe, ce qui n'empêchera pas de faire une petite carrière elle aussi.
Petite carrière aussi.
Voilà. Ouais. Mais revenons à ce nom, Gauthier, Jackson 5.
Alors,
ils ne sont pas allés chercher bien loin, non?
Non, pas très loin, mais quand même, il a fallu leur souffler. Alors, en fait, on est en 65 et un mannequin appelé Avery Leahy organise un défilé de mode dans le petit bled de Forest Glen Park, dans l'Illinois à nouveau. Elle a besoin d'un groupe pour un peu animer sa petite histoire. Et elle se souvient avoir vu dans un centre commercial à Gary, dans l'Indiana, un groupe. Elle téléphone à la mère de ce groupe, la dénommée Catherine. Catherine, je suppose qu'on doit dire. Une amie, d'ailleurs, au demeurant. Et elle enrôle les enfants donc de Catherine pour son petit défilé de mode. Alors, le problème, c'est que le groupe, à l'époque, n'a pas vraiment encore de nom sur le dépliant. Catherine, la mère des Jackson 5, propose de les appeler le Jackson Brother 5. Bon, Lily va répondre, la mannequin, que c'est un peu trop long, que c'est un peu trop compliqué. Et elle va terminer avec Jackson 5, tout simplement. Voilà comment on arrive à un petit nom de groupe mythique. Et à l'époque, donc, ils sont assez peu connus, ils sont embauchés, ils vont assez rapidement se faire un nom et sortir leur premier single, la chanson assez peu connue, mais bon, c'est toujours marrant de voir comment les gens commencent, c'est la chanson Big Boy. Bah, Théo, c'est une chanson pas ouf, une qualité d'enregistrement pas ouf et des musiciens
c'est
pas ouf.
C'est la première, Gauthier.
Voilà, c'est la première, on va dire. Et Michael, notamment, doit être à l'époque extrêmement jeune.
Mais le groupe était né et dès le début, c'est un tsunami Jackson qui s'abat sur les États-Unis.
Ouais, parce que cette chanson pas ouf, je crois qu'elle est enregistrée en 67, elle sort en 68 et ABC, tu l'as dit, c'est 70.
Ouais.
Donc ça va assez vite, c'est la Jackson Mania. Les foules s'accumulent de plus en plus à chacun de leurs concerts. On voit des femmes grimper, ou plutôt des filles grimper sur scène, monter sur les sièges, etc., etc. Des policiers obligés d'essayer d'arrêter et de contrôler la situation. Théo, c'est la Beatles Mania, mais avec les Jackson 5, c'est la Jackson Mania complètement.
Et ils sont chez quel label, tu me rappelles?
Ah, la Motown, bien évidemment, mon cher Théo. Et pour la Motown, à l'époque, c'est le jackpot absolu, au point même qu'ils vont quasiment définir ce que va devenir un boys band, on pourra en rediscuter.
Ouais.
À titre indicatif, leur premier album, pour essayer de continuer à faire un peu de pognon, s'appellera Diana Ross Present Jackson 5. Tu comprends bien l'idée derrière, mon cher Théo, c'est de surfer sur la célébrité à l'époque de la belle Diana Ross, qui sort de son Supreme et qui enchaîne...
Ouais, dont on avait parlé il n'y a pas si longtemps.
Il n'y a pas si longtemps, et qui était déjà une star absolue à l'époque, et l'idée donc c'est d'associer son nom au Jackson 5 pour mieux vendre les Jackson 5.
Et justement, en parlant marketing, Gauthier, ils y sont pas allés de main morte, les loulous là?
Non, ils y sont pas allés de main morte, et quand on dit que les Jackson 5 d'une certaine façon c'est le premier boys band, et ben on est en plein dedans. Il y aura le logo, hein, bien évidemment, ce J en forme de dans un cœur avec le 5, etc., sur la batterie de Johnny Jackson pour donner une imagerie, des autocollants, des affiches, des livres à colorier du groupe, hein, bien évidemment, un jeu jeu de société, même mon cher Théo.
Incroyable.
Et pourquoi pas, quitte à y être, un dessin animé diffusé tous les samedis matins pour les petits enfants. Quand tu veux vendre du Jackson 5, là, une Motown sait faire.
Et puis, en 70, ils nous sortent un petit tube.
Alors, il y avait ABC, effectivement, et il y en a un autre qui sort la même année. Je ne vous le dis pas le nom, je pense que vous le reconnaîtrez tous. Allez, assez rapidement, si je suis sympa. C'est bien évidemment, mon cher Théo, I Want You Back.
Vous êtes bien sur Radio Présence et c'est jour de Jackson 5 aujourd'hui. Mais rapidement, les Jackson 5 se muent en Jackson 1. Ce dernier a pour prénom Michael. Et alors, ce qui est assez fascinant, c'est que on était en train de réaliser que c'est un morceau qui est sorti en 70, que Michael a 12 ans.
Il a pas mué, oui.
À l'époque, qu'il a pas mué. Et qu'il a quand même le lead sur toute la chanson, d'un point de vue vocal. C'est lui qui chante tout, quoi. Comment est-ce que cette mue s'est déroulé, Gauthier?
Alors, avec la Motown encore, qui sent qu'il faut faire des bons dollars,
ouais.
Et qui effectivement, en voyant Michael Jackson, va sentir la poule aux œufs d'or. Et donc, qu'est-ce qu'on fait après avoir créé quasiment le boys band Jackson 5? Eh bien, on pousse Michael faire une carrière solo. C'est à cette époque,
à 12 ans,
que son premier album, Go To Be There, sort. Et il est bien évidemment également un succès. Il y a un autre frère qu'on pousse également à une carrière solo, c'est Jermaine, mais un peu moins célèbre.
Et en même temps, il y a un petit déclin quand même du Jackson 5.
Oui, peut-être à cause notamment du démarrage de Michael en solo. Les disques, effectivement, commencent un tout petit peu à tomber dans les charts. On est quand même encore bien.
Mm-hmm.
Mais c'est aussi dû, et très principalement, à un facteur aggravant, à savoir la dissolution de la Corporation.
Alors,
la Corporation, c'est simple. C'est Berry Gordy, Alphonse Mizzell, Freddie Perren et Decca Richards qui sont, en fait, l'équipe à la composition derrière les Jackson 5.
D'accord.
Donc forcément, quand t'es compositeur, arrête.
Ouais, te lâche.
C'est plus compliqué.
Et j'imagine, Gauthier, que tous ces événements ont contribué à donc, le fait que Michael et Jermaine commencent des carrières solo, que les compositeurs les lâchent, ça a contribué à ce que la nuit de noces entre les Jackson 5 et la Motown s'interrompe un peu plus tôt que prévu.
Oui, il y a aussi, bon, sans rentrer trop dans le détail, mais encore, et vous allez voir que c'est un peu le leitmotiv de toute l'émission, une histoire de gros sous. La Motown n'arrive pas à s'aligner sur les contrats que propose Epic Records, donc les Jackson 5 quittent la Motown pour signer chez Epic.
Comment il s'appelle ? Mick Jagger n'a rien à voir là-dedans pour une fois.
Gautier. Non, là, non.
Promis, d'accord.
Je crois.
Mais donc il signe chez Epic, mais Jermaine Jackson, lui, va rester avec Motown.
Alors c'est là où ça devient l'histoire un peu compliquée. Effectivement, Jermaine Jackson reste à la Motown parce qu'il s'est marié avec Hazel Gordy, qui elle est chez la Motown. Donc on le remplace par Randy Jackson, c'est là où on passe de, pour ainsi dire, à Jackson 5 à Jackson 6. Ouais. Quand t'as d'un autre côté 8 frères et sœurs qui font tous de la musique, c'est assez facile de les remplacer les uns par rapport aux autres. On va dire que t'as un banc, quoi, t'as des remplaçants. Et c'est là qu'on passe de Jackson 5 à simplement Jacksons. Alors, pour vous donner un exemple, vous connaissez tous une chanson qui est sortie sous le nom de Jackson, je vous en mets un extrait, c'est bien évidemment Can You Feel It? Can you feel it? On se la laisse en fond, mon cher Théo, can you feel it?
Et en effet, c'est vrai qu'avec 8 frères et sœurs, c'est plus un groupe, c'est une équipe.
C'est une équipe, une petite équipe de basket.
C'est
hein.
Vraiment.
T'as 5 titulaires, 3 remplaçants, t'es pas mal.
J'ai bien aimé cette image. Et les succès s'enchaînent au fil des albums.
Oui, ça, niveau pognon, on n'a pas à se plaindre. Donc tu auras en 76 l'album Jacksons, des Jacksons et puis des Jackson 5, Going Place en 77, Destin en 78, Triomphe en 80, les mecs sont assez modestes.
C'est clair.
Et c'est quand même invraisemblable, mais en 79, les Jacksons ont déjà vendu 90 millions de disques et je ne mets pas la carrière de Michael dans le tas. On y reviendra.
Et ouais, justement, Gauthier, il n'y a pas comme un pépin là quand tu me dis.
Mais si, mon cher Théo, et toi, tu connais très très bien tes classiques, mon vilain. Bien évidemment, quand on te dit qu'en 78 sort Destin et en 80 sort Triomphe, il y a quelque chose à caler dans cette timeline, et ben c'est Off the Wall, peut-être le plus grand album pour certains, ou quoi, l'un des plus grands albums de notre cher Michael qui a déjà commencé sa carrière solo, mais qui sort le 10 août 1900. 79, cette bombe absolue qui se vendra à 20 millions d'exemplaires, que tu donc peux rajouter aux 90 millions d'exemplaires qu'ils ont déjà vendus sous Jacksons. Ouais. Le pire, c'est qu'il ne s'arrête pas, le bourg, donc Triomphe pour les Jacksons sort en 80, et en 82, lui, Michael Jackson, sort Thriller, 70 millions d'exemplaires, Théo, que tu peux encore ajouter à la tirelire. Tout va bien, Madame la Marquise, tout va très bien. Donc, c'est évidemment là, pardon, excuse-moi, que tu comprends où le bas va commencer à blesser, c'est que, malheureusement, Michael Jackson va devenir un peu trop grand pour les Jackson, puisque à lui tout seul, 70 millions d'exemplaires, il vend nettement plus maintenant que les Jacksons.
Et il est trop grand, mais il n'oublie pas d'où il vient. Il va même entraîner la famille dans son sillage. C'est le sang, Gauthier, comme tu dis.
Ouais, alors question de point de vue, hein. Un sang qui est bien nettoyé par du dollar, parce que effectivement, Michael Jackson accepte de retourner en studio pour un 6e album, pour Epic, hein, qui doit s'appeler Victory. Et là, Théo, tu te dis, Victory, on commence à raccrocher les wagons, c'est pas mal foutu cette histoire, qui va sortir en 1984, l'album le mieux vendu des Jackson à ce jour. Quant à Michael Jackson, qui vient de pondre Thriller, 70 millions d'exemplaires, c'est bien évidemment un appel d'air assez intéressant. Voilà. Mais la majeure partie de l'album est très 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 compliquée à enregistrer. Chacun des frères enregistrant essentiellement leurs chansons en solo. Ça pue la fin des Jacksons. On est un peu dans une ambiance Abbey Road, mais façon Michael Jackson.
C'est à ce moment-là de l'émission qu'on va enfin aborder cette fameuse tournée, Gauthier. On est en 84.
Et il faut aller promouvoir, vendre ce 6e album, donc Victory. On va générer la tournée Victory Tour qui porte définitivement extrêmement mal son nom, puisque initialement, déjà, Michael Jackson ne veut purement et simplement pas y aller. Alors, il va être convaincu par Maman, qui va quand même lui dire, tu pourrais faire ça pour tes frères. Donc, il va y aller, et on va se faire accompagner d'un type qui... peu fréquentable pour certains, à savoir un dénommé Donald King, que vous connaissez peut-être parce qu'il a été le manager pendant un certain temps de Mike Tyson.
C'est Don King.
Don King, Donald King, et que vous avez tous vu normalement dans les Simpsons, c'est ce type avec la croupe qui part en haut toute grise.
Ah, une croupe extraordinaire.
Ouais, qui a toujours plein de bagouze, etc., etc. Un homme qui aime lui aussi beaucoup l'argent.
Ouais, on sent en effet que l'histoire risque de se finir sur un ring, et donc du coup on fait appel à la figure qui connaît à la fois le ring et le spectacle, Gauthier. Donc on met aucune chanson du dernier album.
Ou assez peu tout du moins, on va mettre beaucoup de Michael, parce que ça se vend mieux effectivement.
Donc en gros les Jackson jouent du Michael Jackson, ça a dû plaire ça, j'imagine que l'ambiance était plutôt délétère lorsqu'il n'était pas sur scène.
Alors épouvantable, de toute façon Michael Jackson voulait pas y aller, donc, et les autres sont condamnés à jouer avec un mec qui voulait pas être là, les chansons de ce mec. Donc c'est vrai que c'est pas terrible. Alors Michael Jackson lui va séjourner dans ses propres hôtels, va prendre des jets privés pour se rendre de concert en concert, ne laissant pas sa famille monter avec lui dans le jet, hein, les laissant dans un vol commercial.
C'est chic.
Grande classe. Mmh. À mi-chemin de la tournée, chacun des frères arrive dans leur propre véhicule à des concerts parce qu'ils peuvent plus piffrer. C'est vraiment pas une très très bonne ambiance.
Et puisqu'il semblerait que Michael ait pris le pas sur ses aînés, étant lui-même un coffre-fort sur pattes depuis quelques temps, il se moque de l'argent et il va jusqu'à refuser une offre pharaonique.
Oui, alors c'est là où ça continue dans la grande élégance. Michael, lui, il est pété de thunes, mais il le refuse pour les autres. Et quand la Paramount Pictures propose de filmer dans le cadre d'émissions, on va dire, les frères dans une tour pour suivre la tournée, ben Michael le refuse tout simplement parce qu'il se dit que tout ce gros magot, ça sert pas à grand-chose à ses frères, donc... voilà, c'est toujours pas très très ouf et pas très classe.
Bon, après, les Jacksons n'étaient pas à la rue non plus, parce que ce Victory Tour triomphal s'est montré plutôt lucratif, Gauthier.
Oui, bien évidemment, 75 millions de dollars récoltés, hein, il faut vraiment faire un peu de sous. Et à la fin, l'une des plus grandes tournées de l'histoire de la musique noire américaine. Encore une fois, je vous rappelle qu'on parle de Michael Jackson, auréolé de Thriller, hein, donc c'est probablement la plus grande star pop de l'époque.
Assurément. Une tournée lucrative donc, mais hélas, aux conséquences un peu terrible pour le groupe.
Oui, alors c'était prévisible, hein. Vu tout ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure. Mais bien évidemment, ce qui devait arriver arriva. Michael annonce juste avant le dernier concert, qui était au Dodger Stadium, des petites salles, hein, de concert bien évidemment, qui va quitter le groupe et qui va faire une carrière solo. C'est pas le seul. En janvier, Marlon Jackson va aussi lui annoncer qu'il quitte le groupe pour sa carrière solo, mais tout le monde s'en fout.
Oui, voilà. Puisque personne n'a jamais entendu parler de Marlon Jackson.
Oui, il a fait une carrière solo, ce pauvre Marlon. Donc voilà, c'est à la fin de cette Victory Tour que définitivement, même si artistiquement ça fait déjà belle lurette que Michael Jackson s'est émancipé, que Michael Jackson quitte le giron Jackson's, ex-Jackson 5.
Alors, ça finit pas très bien comme on pouvait le présumer assez facilement. Toutefois, il y a quand même du positif à retenir de cela, Gauthier.
L'influence absolument monumentale du groupe sur l'industrie musicale et sur nos petites oreilles, hein, bien évidemment, parce qu'ils nous ont fait danser dans beaucoup de mariages et dans beaucoup de soirées. Ils ont créé cette musique effroyablement contagieuse, mélange de R&B, de soul, de funk et beaucoup de pop pour vendre tout ça, les petites danses, hein, tous ensemble synchronisés, cette capacité à vendre, on en avait un peu parlé pour le Suprême, mais une musique tout à la fois pour les blancs et pour les noirs, alors que c'est censé être une musique noire initialement dans une Amérique qui est encore un peu avec ses vieux démons, la naissance, hein, presque du boys band à eux tout seuls. Voilà, les Jackson 5 c'est beaucoup, les Jackson c'est beaucoup, mais c'est aussi et surtout, et c'est peut-être ça qu'on retiendra d'eux, ben la rampe de lancement de la fusée Michael Jackson, qui fera pas grand chose d'extraordinaire après les Jacksons, puisque Thriller sort, il y a encore, comment il s'appelle, celui que j'aime pas beaucoup moi, là, qui est très, très disco, et après il y aura plus grand chose derrière, ou il y a Beat It, justement, sauf erreur de ma part. J'ai plus son nom, mon cher Théo.
Pas.
Si, c'est le... C'est...
Off the Wall, non.
Non, Off the Wall, c'est le premier, t'as Thriller, et après t'as... je l'ai plus, bon. Passons. Mais voilà, c'est pas la meilleure partie de la carrière de Michael Jackson, à mon sens, après ça.
Chers amis, tu vas nous le retrouver avant la fin de l'émission.
Je recherche.
Je le vois. Cette émission touche à sa
bad,
fin.
Bad,
bad. Ah ben oui, bien sûr.
J'ai même pas eu le temps d'aller sur le téléphone, bad. Je ne l'ai pas fiché encore.
Bravo. On se quitte en s'écoutant Baby Be Mine de Michael Jackson, donc paru sur l'album Thriller. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur le site de Radio Présence, mais également sur toutes les plateformes de podcast disponibles. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine pour le 4e épisode de la saga Bowie. Une très belle semaine à vous, une très belle semaine à toi, Gauthier.
Salut Théo.
À lundi. Every night.
Oh my-